l'origine et le fonctionnement cérébral du TDAH. Le TDAH est la conséquence d'une accumulation de facteurs génétiques et environnementaux. Le plus souvent, c'est majoritairement la génétique qui est à l'origine du trouble. Aucun gène précis ou marqueur biologique n'a été identifié pour le TDAH. Il s'agit de la combinaison de gènes à facteurs précipitants. Chaque gène isolé n'est pas responsable à lui seul de l'expression du TDAH. Les recherches montrent une forte héritabilité génétique. Des recherches pointent le fait que certains gènes TDAH proviendraient des Néandertaliens, chasseurs-cueilleurs qui vivaient de façon nomade. Le fonctionnement de type TDAH devait être adapté à ce contexte. Les gènes auraient progressivement subi une pression sélective au sein de la population Homo sapiens au gré de la socialisation et de la sédentarisation. L'environnement vient souvent moduler l'expression du TDAH à partir de la génétique préexistante. Voici quelques facteurs précipitants. Être né prématuré ou avec un faible poids de naissance, une mère présentant une hypertension artérielle, de la préclampsie, de l'hyperthyroïdie ou de l'obésité pendant la grossesse, ou si la mère a subi de nombreuses fausses couches antérieures. L'environnement familial et les traumatismes peuvent également jouer un rôle. Un faible revenu familial, un niveau d'instruction peu élevé des parents et des périodes de chômage, de graves dissensions dans le couple, une mère ayant perdu un proche pendant la grossesse, fait un abus important de substances, la présence de troubles psychiatriques ou de la criminalité, un placement extra-familial de l'enfant, une exposition à la violence sexuelle ou à de la négligence physique. L'exposition à des substances toxiques pondère également l'expression du TDAH, avec par exemple un taux de plomb élevé dans le sang, une exposition prénatale au valproate, une exposition aux pesticides organophosphorés, une exposition à l'oxyde nitrique. Les carences nutritionnelles jouent également un rôle, avec un taux faible à modéré de ferritine sérique, d'acide gras oméga-3 dans le sang et un taux de vitamine D faible chez la mère. Les études scientifiques mettent en évidence plusieurs spécificités du cerveau TDAH. Tout d'abord, des neurotransmetteurs en moins grand nombre. La dopamine et la noradrénaline sont des neurotransmetteurs qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Par défaut, dans le TDAH, leurs niveaux sont plus bas que la moyenne au sein de différents réseaux, dont celui de la récompense dans le striatum. Les scientifiques cherchent encore la cause exacte. Est-ce qu'il s'agit d'une recapture trop importante ou d'une synthétisation déficitaire? Ensuite, la communication entre les aires cérébrales est inférieure à la moyenne. Le niveau bas de dopamine perturbe la communication entre les différentes aires du cerveau, en particulier avec le cortex préfrontal, ce qui engendre des difficultés à ajuster les comportements en fonction de la qualité des récompenses des stimuli, des difficultés à hiérarchiser les informations et une plus grande sensibilité aux interférences. Listons quelques conséquences dans la vie quotidienne. Un comportement et une réponse souvent on-off, en tout ou rien, des difficultés de mémorisation conditionnées à la motivation, des difficultés à planifier avec une inflexibilité dans les stratégies, des pensées interférentes avec une difficulté à rester dans l'instant présent, à maintenir la concentration sur une tâche ou une conversation. Une réalité comme fragmentée avec une difficulté à intégrer de l'information en un seul tout cohérent. Reconstituer une perception complète et cohérente demandera un effort intellectuel. Cette particularité est fréquemment associée au TND, troubles neurodéveloppementaux. Abordons maintenant les trois théories coexistantes pour expliquer le fonctionnement neurologique du TDAH. La première, le défaut d'inhibition. Les symptômes seraient dus à un manque d'inhibition de certaines informations. Pour l'inattention, il s'agirait de l'inhibition des stimuli. Pour l'impulsivité, l'inhibition des pulsions. Pour l'hyperactivité, l'inhibition motrice. La seconde théorie s'appelle l'aversion au délai. Les symptômes seraient dus à une poursuite de récompenses rapides et importantes. En ce qui concerne l'inattention, il s'agirait de la poursuite des stimuli. Pour l'impulsivité, la poursuite d'une récompense immédiate. Et l'hyperactivité, une dérégulation du système but-récompense. Pour la troisième théorie, le mode par défaut Les symptômes seraient dus à la trop grande survenance du mode rêveur du cerveau. L'inattention serait alors une difficulté d'activation. L'impulsivité, une difficulté de maintien attentionnel, et l'hyperactivité, des difficultés d'autorégulation.